RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket du mardi sur RMC, à télécharger sur rmc.fr. On se régale, c'est les finales. C'est un spécial final San Antonio, New York, back to 99, messieurs.
Qu'est-ce que tu viens de dire là?
Back to 99.
Je sais pas compris.
C'est pas, tu sais pas?
Je comprends pas ce que tu dis.
Ça veut dire retour en arrière.
Ça veut dire retour en arrière.
Salut Fred.
Bonjour. Écoute très bien quand je te vois.
Félix Gabory qui revient de San Antonio au Edo Casey.
C'est le seul mec qui rentre alors que le final démarre.
Je manquais trois Fred, il fallait que je revienne, monsieur Fred.
Mais c'est vrai. J'étais un peu perdu, c'est vrai.
Et Stephen Brun, oui, vous avez bonjour. Reconnu la voix. Après, c'est plus sympa d'aller à New York quand même. Non
que San Antonio?
Non, que au Casey. Non,
ça va. Raconte-toi un peu l'ambiance de la salle de Casey, parce qu'on dit que c'est une salle très chaude,
Massachusetts. C'est complètement dingue. Complètement dingue.
Mieux que les Spurs.
En vrai, ça se vaut. Non, vraiment, en termes de bruit, ça s'appelle Loud City, c'est pas pour rien. Franchement, le bruit, c'est un bordel. C'est vraiment un énorme bordel.
Quelle est la plus belle salle?
Non, celle des Spurs, quand même.
Ah ouais?
Ouais, je dirais. Bon, après, ça se vaut. Tu sais, toutes les salles de billets, c'est un peu les mêmes choses. Hein. C'est très.
Très bien.
C'est très copié-collé. Mais après, celle de Casey, elle est dans le centre-ville, donc c'est pas mal.
Et les cheerleaders?
Les cheerleaders, j'ai pas trop regardé les cheerleaders. Ouais.
Bonne réponse.
Bah oui, il a commencé à bégayer.
Il s'est pas fait piéger, bravo. Hein. Bravo, Félix. Et la ville, moi, ça m'intéresse. La ville, ça ressemble à quoi au Casey?
Au Casey, c'est plus petit que San Antonio, c'est quasiment deux fois plus petit et c'est bien plus calme. T'as une espèce de, tu vois, un bon vivre là-bas qui fait cette
espèce d'inquiétude.
Une certaine inquiétude, voilà.
C'est un peu de charme ou pas?
Si, centre-ville, il y a Bricktown, donc c'est un truc, c'est que des maisons en briques.
L'herbe est légalisée, là-bas.
Oui, bah, comme
ça. C'est pour ça que c'est très calme.
T'as pédable des gros wins, je sais ça,
Non, mais le petit centre-ville d'OKC, c'est plutôt mignon, c'est plutôt, tu vois, c'est plutôt. Une certaine inquiétude, contrairement à San Antonio, où c'est des fois, c'est un peu dense, un peu le bordel, des fois, San Antonio. Le petit côté latino, tu vois.
Mais là, par contre, tu vas te frotter aux fans de New York, ça va être royal.
Tu vas faire du micro devant le Garden. Fucking
next baby. Franchement, c'est une très belle finale hein, pour ça.
L'affiche est parfaite.
Deux franchises très différentes, deux villes très différentes.
Adam Silver est très très content aussi pour les finales.
Ça va faire péter les audiences.
Alors, justement, on va faire un preview de la finale. Voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez, qui est favori, qui va l'emporter, dans quel scénario, quelles sont les clés de cette finale. Ensuite, qui est le meilleur joueur des playoffs jusqu'ici? Voilà, on a un Jalen Brunson qui marche sur l'eau, Wemby évidemment, et vous allez me dire, bah, il y a peut-être d'autres, hein, peut-être qu'on parlera de Towns par exemple, enfin bref, ça c'est le deuxième débat, et puis la partie historique, on va refaire la finale de 99 évidemment. Alors moi je vous avoue, cette finale...
T'avais quel âge?
J'étais pas tout jeune. J'étais déjà, j'avais 23 ans, ah, c'est vrai que c'est après, juste après Jordan, on a lâché hein. C'est vrai, hein.
C'est vrai que c'est,
j'avoue,
c'est l'année d'après.
Cette finale, je n'en ai aucune connaissance. Donc vous avez
moi, je l'avais vu un petit peu parce que je suis drafté dans la foulée.
Eh oui, toi, c'est ton époque, toi. Regardé, ouais. Toi, t'étais à fond.
Ça sera en 2000.
En 99. Juste après.
En 99, juste après. Ouais. Okay, okay.
Voilà, le quiz, ce sera entre San Antonio et New York. New York, San Antonio.
Ouais, sympa.
Des petits allers-retours comme ça.
Géographique. Il y a des quiz de culture générale.
Il y a très beaucoup de culture générale.
Très beaucoup.
On parle de basket.
Alors là, je pense que c'est le quiz dans lequel on parlera le moins de basket.
Tu cherches un truc à te balancer.
C'est pas vrai. Mais il y a 2-3 dingueries. Tu sais, à chaque fois, je pense comment je vais faire pour faire sortir Fred de Segon. Hein, tu sais, hein, c'est la partie du.
C'est pas très compliqué.
C'est un des gimmicks du podcast hein, maintenant.
Oui, mais tu sais que c'est pas compliqué.
Surtout ce matin, quand il a pris le train Limoges-Paris.
J'ai tenté des petits trucs, on va voir si ça marche. Allez, c'est parti. La finale, c'est le plus important.
Believe it, Knicks fans, for the first time in 27 years, the New York Knicks are going to the NBA Finals.
A new era has dawned. It's Wemby's West. The Spurs are going to the NBA Finals.
It's a fucking Knicks!
The Knicks go to the Finals. It's like Jesus returning. We're smoking on the
bed. It's the Finals!
I don't speak no French, Wemby. I'm a...
You want to send that nigga back to France?
Félix, je t'annonce que tu peux déjà préparer tes sujets sur les fans des New York Knicks, hein, je pense qu'on va bien rigoler. Alors, vous allez me présenter cette finale, qui est favori d'abord pour vous? Parce que moi j'entends beaucoup, beaucoup dire que c'est New York, que c'est San Antonio, je trouve ça un peu présomptueux, personnellement. Toi Steve, tu me dis non, c'est normal.
Moi, sur ce que j'ai vu sur la globalité de la saison, moi je trouve ça logique que les Spurs soient, je te dis pas qu'ils soient archi favoris, mais qu'ils soient légèrement favoris face à New York, parce qu'ils ont produit sur la saison régulière dans une conférence bien plus concurrentielle que celle des Knicks, gagner 9 matchs de plus et prendre 62 victoires, voilà, déjà ça leur donne un avantage. Alors oui, on parle de saison régulière, la NBA Cup, cette NBA Cup, on rappelle que Victor revenait de blessure, qu'il sortait du banc, qu'il jouait à peine plus de 25 minutes, il y a quand même quelques circonstances pour atténuer cette victoire des Knicks. Après, on me dit que les Knicks sont énormes. Oui, 11 victoires consécutives en play-off, mais je pense que cette équipe des Knicks n'a pas affronté une équipe du calibre des Spurs pour se hisser en finale NBA. Que les Spurs, ils ont affronté beaucoup de choses pour la première fois et ils ont réussi beaucoup de choses pour la première fois. Le manque d'expérience, bon, ça, on peut mettre de côté, c'est terminé. Un match 7 à l'extérieur, bon, ça y est, ils ont passé le test. Donc moi, je vois les Spurs légèrement favoris par rapport à New York, Pierrot.
Fred ?
Je n'en ai aucune idée.
T'en as aucune
idée ? Je n'en ai aucune idée, tout simplement parce que d'un côté, effectivement, on a les Spurs qui ont joué des matchs extrêmement compliqués contre des équipes extrêmement compliquées. C'était fort, c'était dense, c'était intense, c'était physique. Je me suis rendu compte quand même que parfois, Victor était fatigué. On l'a vu sur le match 5, notamment, où il était vraiment complètement à plat. Est-ce que l'enchaînement de ces 7 matchs contre OKC ne l'aura pas fatigué ? Ce sera difficile à déterminer aussi, mais c'est une donnée à prendre en compte. Et de l'autre côté, je ne sais pas évaluer la performance de New York, en fait. Je ne sais pas, parce que c'est fantastique, c'est merveilleux, mais est-ce que l'adversité était suffisante pour qu'on puisse avoir une opinion dessus ?
Okay.
Je ne sais pas trop.
Mais quand tu massacres des adversaires, même si tu as un doute sur le niveau des adversaires,
Tu les as massacrés surtout sur, les matchs 4. Hein. Dans l'absolu, les matchs sont plutôt joués et jouables. Ouais, rappelle-toi le match 1, notamment, contre les Cavs, t'es à moins 22 à un moment.
Oui, mais en gros, dès qu'ils ont pris l'ascendant sur le score de la série, après, ça a été un ouragan.
Je suis complètement d'accord.
Et donc, en fait, même si je veux bien que les adversaires soient plus faibles, c'est quand même assez rare dans une compétition de ce niveau-là,
c'est ce que
même hors NBA,
je n'arrive pas
de
à
voir
l'évaluer.
Une équipe aussi dominante, même face à des adversaires que tu peux estimer plus faibles.
J'entends ce que tu dis, sauf qu'ils n'ont pas affronter une défense aussi
regarde,
dure.
Arsenal
aussi...
en Ligue des Champions, ils ont eu un parcours du type de New York avec des équipes moins fortes.
Ils ont perdu.
Ils ont perdu à la fin, mais ils sont passés ric-rac à chaque fois.
Oui,
ils n'ont pas éclaté le Sporting, pas éclaté
juste, est-ce que tu te rends compte quand même que New York, offensivement, c'est juste une machine à tuer du côté de l'Est. Ça a explosé les scores, tout le monde participe. L'attaque est
fantastique. Contre des défenses qui ne sont pas celles des
Spurs. C'est pour ça que j'ai du mal à évaluer, parce qu'ils vont se retrouver contre une défense qui a montré des choses, qui a été capable d'arrêter quand même la meilleure équipe de l'Ouest, même s'il manquait des joueurs, pas revenir dessus, mais malgré tout ils ont été capables de les arrêter. Je suis désolé, j'ai du mal à l'évaluer. Je pense que d'un côté t'as une équipe offensivement, si elle arrive à prendre feu, qui va être extraordinaire, c'est New York, et de l'autre côté, est-ce que cette équipe des Spurs aura la capacité de défendre aussi bien qu'ils l'ont fait jusque là, et dans ce cas là difficile de juger qui va s'imposer.
Félix, qui est favori pour toi?
C'est très dur. Et la semaine dernière, j'avais dit 55. Je crois que j'avais dit 55-45 Spurs. Merci. Et là, non, je suis pas loin de l'avis de Fred.
La semaine dernière, tu savais déjà qu'ils étaient en finale, les Spurs.
Non, on s'était projeté sur si c'est San Antonio, si c'est OKC. On avait fait les deux scénarios.
Okay.
Et c'est très dur de pronostiquer. Non, mais c'est vrai qu'en fait, on peut pas savoir vraiment ce vrai niveau des Knicks. Est-ce que vraiment ils ont bénéficié d'une conférence test très faible, ou est-ce qu'il n'y a pas un petit peu, et c'est plutôt mon avis, c'est eux qui se sont rendus ce parcours-là très facile aussi, parce que ils sont.
Joel Embiid les a bien aidés quand même.
Ouais, mais tu vois, avant chaque tour de playoff, notamment contre Philadelphie et après contre Cleveland, les favoris c'était à chaque fois Philadelphie et Cleveland. Ils n'ont jamais été favoris de leur match-up New York, et au final, à chaque fois, ils se sont rendus le chemin hyper facile en explosant vraiment leurs adversaires. Et donc, surtout, on aurait pu se poser la question si New York passait un peu ric-rac contre Cleveland, contre Philadelphie, qui ne sont pas des équipes du niveau de OKC ou de San Antonio. Mais là, ils ne sont pas passés ric-rac, c'était vraiment un rouleau compresseur, ils les humiliaient. Donc c'est eux qui se rendaient faciles ces tours-là.
Je te rejoins qu'ils ont fait des matchs exceptionnels d'adresse et qu'ils ont détruit l'adversité et qu'ils ont peut-être empêché l'adversité d'avoir un moment de rébellion. Mais le problème, c'est que moi, j'ai vu Cleveland tellement friable dans les attitudes et lâcher les matchs, je ne vois pas San Antonio, encore plus en finale NBA, abdiquer aussi facilement qu'a fait Cleveland. Cleveland, au bout d'un moment, ils ont rendu les armes.
Ils ont donné le match 1,
ils ont abandonné la série.
Le match 1 les a tués.
Oui.
Le match 1 les a tués. Oui, 22 et à l'extérieur.
Le match 1, ce qui est fou, c'est que même avec la révolte de New York, et même en n'étant pas hyper fort mentalement, ils doivent le gagner quand même. C'est ça qui est fou.
Bien sûr, mais évidemment, mais c'est pour ça que ça les a tués.
Ça veut dire qu'ils sont faibles.
Très, très faibles.
Spurs, pour moi, ils n'ont pas, cette faiblesse-là. Non, ils n'ont pas cette faiblesse-là dans la tête. Ils lâchent pas les matchs. Alors, il peut y avoir de la fatigue. Mais moi, en fait, tous ces gamins de San Antonio, ils débarquent, en fait, sans peur et sans reproche. En fait, les Dylan Harper, sur le match 7, il va te mettre un step back à 3 points. Ouais, il a 20 ans.
Ouais, non, c'est dingue.
Il découvre la NBA. Moi, il n'y a pas un mec des Spurs qui passe à côté sur le match 7. Et je ne les vois pas. Je ne te dis pas, Pierrot, qu'il y a un wagon d'écart. Mais je pense que San Antonio.
Trop fort, trop dur à prendre.
Et en fait, ils ont le meilleur joueur de la série pour moi. On va en parler plus tard. Mais je crois que Victor est le meilleur joueur de deux effectifs, en fait.
Alors après.
Dans les victoires, oui.
Est-ce qu'il est possible, même pour une équipe comme les Spurs, de défendre sur Brunson qui est quand même en feu?
Ils l'ont fait sur Shea.
Ouais.
Ils ont de la viande. Oui, on a vu qu'il y a plein de joueurs qui sont
c'est
capables
un autre
de
client,
le faire.
Maintenant.
Castle, c'est incroyable. Vassell, moi, j'ai trouvé très bon aussi par moment parce qu'en plus, il est un petit peu plus long.
Même Champagny, c'est mis
des Champagny, ouais, en fait, ils ont vraiment la capacité normalement de le faire.
Et même Dylan Harper aussi.
Oui. En fait, vraiment, moi, je ne sais pas quoi penser de cette équipe de New York, vraiment, une nouvelle fois. Mais je pense que d'un côté, on a quand même une équipe qui est capable de s'imposer physiquement dans la densité et sur la défense. Donc je pense que San Antonio est légèrement favori, mais vraiment très,
très léger. Quoi.
Parce que Jalen Brunson, j'ose espérer qu'il a regardé San Antonio, parce que ce qu'a pris Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Brunson va prendre la même chose.
Ah bah oui.
Stephen Castle est monumental. Alors la fatigue, oui, ça reste quand même un jeune joueur. Je pense qu'il a du jus, Stephen Castle, putain de merde. Mm. Il a une détente exceptionnelle. Et Jalen Brunson, il a un peu les mêmes qualités que Shai, même s'il prend plus de tirs à 3 points que Shai Gilgeous-Alexander, mais c'est un mec qui est dans le périmètre. Et quand tu es dans le périmètre, quand tu vas prendre tes tirs, tu vas voir de l'ombre. Victor Wembanyama va être là à le chasser.
Et surtout, j'imagine les petits coups d'épaule de Brunson.
Oui.
Il va pas reculer, Brunson.
Non, Castle, il va pas. Et Victor va pouvoir se permettre de d'être là en deuxième rideau, faire de l'ombre. Et Jalen Brunson, il a intérêt à être près du texte. Il a intérêt aussi à être prêt à lâcher les ballons parce que je pense qu'il va peut-être se faire trapper. Ils vont venir doubler.
Oui. Au début,
ils vont venir doubler sur lui pour lui faire lâcher le ballon et dire allez-y, Jalen Brunson, on va essayer de le limiter. Montrez-nous les autres joueurs. Après, tu as des joueurs des Knicks qui font des séries de playoffs de trop niveau.
Quel va être le rôle de Kat justement dans ce match?
C'est primordial, c'est une des clés pour moi de la série, notamment de comment il va réussir essayer de limiter l'impact de Victor Wembanyama en défense et après en attaque. Est-ce qu'on va avoir le Karl Anthony Towns qu'on voit depuis 2 tours et demi, donc qui a complètement changé le jeu de New York? On en a déjà beaucoup parlé dans son rôle un peu à la Jokic, Draymond Green, qui est maintenant un peu la plaque tournante de l'attaque des Knicks. Est-ce que vraiment il va pouvoir exister en attaque? Parce que c'est vrai que t'as quand même un sacré défenseur sur le paletot avec Victor Wembanyama.
S'il tue à 3 points, parce que t'es obligé de le tuer. Déjà, il faut être sûr que Victor va défendre sur Karl Anthony Towns. Et ça, moi, je suis pas certain.
Peut-être que c'est Anunoby qui va défendre sur Victor.
Et l'inverse, je suis pas sûr que Victor soit en défense directe sur Karl Anthony Towns.
Sur des séquences, forcément.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'es obligé de suivre à 3 points, de t'écarter de la zone et donc de moins aider. Donc ça peut être intéressant quand même aussi. Ouais. Même s'il touche pas de ballon, il peut écarter le jeu et laisser de l'espace dans la peinture.
Kat a une grosse clé, je pense, du succès. De New York, parce que c'est la première fois que Victor va devoir éventuellement défendre sur un pivot aussi adroit, parce que je pense que Karl Anthony Towns est peut-être le pivot le plus adroit.
Lui le dit.
et puis il le montre aussi en termes de chiffres, en termes d'adresse. Victor va devoir, s'il défend sur Towns, sortir très haut, parce que sinon Towns bombarde et ça va désengorger un peu la raquette et permettre
qui le fait défendre Victor. Tu vas dire que je suis complètement fou. Josh Hart, évidemment.
Oui, évidemment.
Mais
tu peux flotter, tu peux faire la passe,
exactement.
Mais le problème, c'est que t'envoies qui sur Towns? Malheureusement, les Spurs, ils sont un peu courts à l'intérieur. Et donc, t'as pas trop de vision d'envoyer sur Towns.
C'est une vraie problématique, mais ça te permet d'avoir toujours quelqu'un dans la peinture pour protéger toutes les pénétrations et les percussions de Brunson, par exemple, tu vois.
Ouais,
ou d'un hobby,
en 1-3, tu vois, il n'y a personne d'autre que Victor qui peut défendre.
À l'extérieur, il y en a plein, mais à l'intérieur.
Pas Keldon Johnson, mais Champagny ou Harrison Barnes, s'il prend plus de minutes, ils peuvent aller au large. Et si jamais 41 se rapproche, si Victor il est sur Josh Hart,
tu peux
refuser. Victor il va venir doubler.
Bien sûr.
Et s'il y a une skip pass pour Josh Hart, et tu vas prier qu'il ne fasse pas comme contre Cleveland et qu'il ne mette pas 8 tirs à 3 points.
Ouais.
J'ai très bien compris. Non, mais c'est bien parce que là j'ai compris. Parfois je suis largué. Hein.
C'est pas très compliqué.
Dans les phases tactiques, c'est exactement ça, Fred. Là, c'est pas très compliqué.
Et puis, quid de Mitchell Robinson aussi. Il s'est cassé le doigt, je crois.
Il doit être là normalement.
Évidemment qu'il va être là. C'est le petit doigt.
Oui.
Et il joue déjà avec des moufles.
C'est ça.
Ça va peut-être redresser son tir.
J'exagère un peu parce qu'effectivement, mais par contre, son impact, son physique, sa dureté, c'est hyper important.
Allez chatouiller Victor Orboff. Alors, déjà qu'avec 5 doigts en bonne santé, il a 30% lancé franc. Oui.
Mais imagine, il est meilleur.
Il a raison, Pierrot. Imagine, ça reste son shoot et ça devient un peu shooter d'élite.
C'est vrai qu'il y en a, c'est
un traumatisme, lui, quand il est sur la ligne.
C'est en
plus, t'entends le public à moitié, dès qu'il touche le cercle, les gens sont contents. Ouais, allez, on continue.
Mais il va être important, Robinson, pour apporter un peu de la viande contre Victor.
Il va être dur, c'est important.
Non, mais c'est vrai que c'est fou de te dire que des mecs font carrière avec si peu d'adresse, mais bah, évidemment, il y a des raisons.
Parce qu'il apporte d'autres choses.
Il y a autre chose, évidemment. Mais c'est vrai que c'est fou parce que là, quand t'es gamin, quand tu commences un sport, c'est la base. Tu essayes de mettre des paniers, c'est ça qui te fait kiffer.
Normalement, oui.
Hein, on est d'accord.
Ah, puis c'est dingue aussi que même avec du travail, parce qu'on suppose qu'il travaille quand même, ce garçon-là, il n'est pas arrivé. C'est juste vraiment, genre, il n'y arrive pas.
Je suis pas sûr qu'il travaille beaucoup sa technique près du cercle, par exemple, parce qu'il n'a pas besoin de ça. En fait, je pense qu'en NBA, vraiment, quand t'es un role player, on travaille sur tes forces.
Après, il doit s'envoyer des séries de
lancers. Mais ce que je veux dire, c'est sur des techniques de haut panier, etc.
On va jamais lui demander de post-up à Mitch Robinson. On voit des ballons en l'air, mais des dingues, pas de robots.
Je sens qu'il a des limites physiques, juste son bras, sa main ne répondent pas correctement.
T'as l'impression que quand il est sur la ligne de lancer, il file la télécommande à quelqu'un en tribune, il contrôle un peu le. Il y a un joystick qui contrôle le
lancer franc. Bon, mais quand même, tu te rappelles, il prenait une décharge chaque fois qu'il faisait.
Qui on a oublié dans cette finale?
Michael Bridges, peut-être.
Michael Bridges.
Anunoby.
Anunoby, oui. Anunoby, Michael Bridges.
Anunoby.
Chamette, qui peut être un facteur X aussi, hein. Ça peut être intéressant.
Alors, moi, je veux bien l'André Chamette, mais il a fait 91% à 3 points sur la finale.
Non, mais il ne fera pas.
S'il me refait ça en finale à NBA,
Oui, mais je suis d'accord, mais ça veut dire que c'est une vraie menace. C'est-à-dire que tu changes un petit peu ta façon de défendre. T'aides un petit peu moins, t'es obligé d'être sur lui. Ça peut être un facteur important.
Après, ils ont du monde, hein. Alvarado peut jouer encore des minutes et voler un ou deux ballons pénibles. Ils ont une belle
profondeur. McBride, qui est toujours dangereux.
J'étais assez d'accord avec Français. C'est Rick Pitino qui a dit ça, donc entraîneur emblématique des Knicks, qui disait avant le début des finales de conf, sur les 4 dernières équipes qui restaient, que c'était les Knicks qui avaient les meilleurs 9 ou 10 joueurs. Pas forcément les 3 meilleurs joueurs ou le meilleur 5 majeur.
Depuis que Mike Brown les utilise.
Oui,
mais en fait, ils ont vraiment une profondeur assez dingue. Et je trouve que c'est aussi une des clés de.
Quand ils sont au combat.
Oui, après, vu qu'il manquait Jimmy Mitchell et Jalen Williams, ils avaient un peu moins de profondeur. Et je pense que c'est peut-être une clé, c'est que justement, San Antonio, ils n'ont pas énormément de profondeur. Tu arrives rapidement.
Tu as vu Cornette, les comptes qu'il peut mettre.
Ouais, non, mais tu vois, après Cornette.
Est-ce que Diawara va avoir un rôle qui va jouer Diawara.
Oui, un rôle d'encouragement, de bouteille de cristalline.
De New York.
Le match est fini à 20 secondes.
Il n'a pas joué ?
Pas vraiment le Biombo, parce que le Biombo, je pense qu'il a un vrai impact par le discours. Je suis sûr qu'on va mettre Diarra, ils prennent Jalen Brunson.
Franchement, j'adorerais voir cette image quand même.
Rappelle l'image où Mathieu Stett, il fait un câlin. Je ne suis pas sûr que Jalen Brunson vienne faire câlin à Mohamed Diawara pour lui demander ce qu'il doit faire.
C'est fou d'ailleurs ce rôle de Biombo là.
Ouais.
C'est un coach quoi.
Mais il l'écoute vraiment. Enfin, ce que j'aime, c'est vraiment, il boit ses paroles. C'est incroyable.
Parce qu'il parle français, donc il doit être content.
Et Harrison Barnes, d'ailleurs, un peu ce rôle-là aussi. On a eu plein de séquences où Harrison Barnes joue un peu plus, mais il y a plein de séquences où il vient, il donne des conseils à Victor. Parce que il a tellement d'expérience des playoffs aussi, Harrison Barnes, que voilà, ça aide dans cette équipe-là.
Parce que t'as besoin, parce que c'est une équipe jeune, et t'as besoin aussi de garçons qui viennent calmer, parce qu'il y en a un qui est. Parfois, qui est pas loin de vriller. Stéphane Cassel, il monte très vite dans les tours. Et parfois, il est pas loin de tout arracher.
Et Dylan Harper, le QI de Dylan Harper, j'ai l'impression que ça fait déjà 10 ans qu'il l'a NBA. Quand il vient, il se jette sur lui pour pas qu'il se pète un
peu.
Vraiment, il se jette, il se met à son cou. C'était très drôle.
Mais c'est vrai que cette séquence, tu sens que ça a failli basculer.
Oui,
très bon réflexe. C'est Dylan Harper
qui fait ça.
Très bon réflexe.
Un peu comme au foot, là, qui vient, mais je pense qu'il y avait un peu de sueur.
Mais il a capté quand tu étais prêt à se relever.
Je pense qu'il le connaît.
C'est une belle faute de Caruso.
Ouais, la faute elle est dégueulasse quand même. Hein.
Il reste appuyé un peu trop longtemps sur le bras.
Il y a eu la même chose au match 3 ou 4 à San Antonio où c'est un agent de la sécu des Spurs qui retient Paris Castle aussi sur une faute de Caruso. En fait, tu sens que Castle il a l'air très froid, très clean comme ça, mais des fois les filles peuvent un peu se toucher.
Attention, je pense qu'à New York, au Madison, ils vont en jouer de ça, non ?
Bah ouais.
Ils vont le chercher, mais bien sûr.
Il y a Timothée Chalamet qui va être Stephen Castle.
Ce qui est drôle, c'est que t'as l'impression que vraiment à San Antonio, tout le monde, de Dylan Harper, des joueurs jusqu'au mec de la sécu, tout le monde sait que Castle peut un peu péter un plomb, donc tout le monde est prêt à sauter dessus.
Même dans le jeu, des fois, il pète un plomb à faire un contre 3, un contre 4.
Allez, on passe au deuxième débat. Qui est le plus fort jusqu'ici dans ces playoffs?
2026 Eastern Conference Finals most valuable player, Jalen Brunson.
Brunson fakes, drives, gets inside, pull-up jumper, got it! Brunson drives, pulls up, back shot is good!
The 2026 Western Conference Finals most valuable player, Victor Wembanyama.
Wembanyama, I think he's gonna go from midcourt.
Got it! It means everything, we want 4 more, we're not done. Go Spurs, go!
Alors, qui est le meilleur joueur des playoffs jusqu'ici? Qui est le plus fort? Andrea Bargnani. Alors, donc, on a d'un côté Wemby, de l'autre Brunson. Évidemment, deux joueurs extrêmement différents. Mais j'ai envie de rajouter quand même Karl-Anthony Towns dans ce débat. Oui, oui, un grand, un autre grand, un deuxième grand, Fred, pour te faire plaisir. Avant de t'énerver un peu plus tard dans ce podcast.
J'ai pas du tout dit quoi que ce soit.
Alors, comment, tiens? Puisqu'il y a deux grands.
Moi, je choisis les deux, Brunson et Victor, et j'ai l'impression, en tous les cas, que Brunson est un joueur fantastique, incroyable. Et comme on a du mal à évaluer une nouvelle fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on a du mal à évaluer le niveau des équipes qu'il a affrontées, c'est plus difficile de juger exactement. Mais il a été parfait, fantastique, il a été clutch dans les moments incroyables. Mais l'impression que j'ai, et je peux me tromper, hein, mais l'impression que j'ai, c'est sur les victoires. Victor est plus important.
Victor est plus important.
Oui, Victor est plus important parce qu'il va t'apporter défensivement des choses incroyables, il va t'apporter des choses offensivement, il va donner des solutions. Et rien que le fait de bouger, ça crée de l'espace aux autres aussi. Et j'ai vraiment cette impression que celui qui est plus important, en fait, la vraie question que tu nous poses, c'est de savoir lequel des deux est le plus important pour son équipe quand il est sur le terrain.
Oui, ça c'est la façon que tu as trouvé de détourner la question pour dire Victor.
Donc pour moi, celui qui est le plus important quand il est sur le terrain, parce que ce qu'il apporte des deux côtés du terrain, ben c'est Victor.
Ok, Félix. C'est exactement le même débat que qu'on a eu dans le Talk 1, parce que Brunson, c'est absolument monstrueux ce qu'il fait, mais encore une fois, on a du mal à l'évaluer. Mais parce que t'as vraiment deux cas très différents. Là où Victor, il fait des performances incroyables qu'on souligne, et t'as l'impression que ça le fait un peu de. Enfin, c'est vraiment dans l'adversité qu'il le fait avec du labeur, tu vois, notamment contre OKC, contre Minnesota, il s'est fait taper dessus, etc. Donc ça rajoute encore quelque chose à sa performance de réussir à performer.
Ouais, il est énorme. Petit bémol, parce que je veux pas passer pour un grincheux, etc. Mais dans le match 7, il n'est pas clutch dans le money time. C'est-à-dire qu'il fait un
si il met à 3 points à un moment donné.
Il met à 3 points, ouais, step back.
Oui, okay. Il fait un très gros match et tout. Mais non, mais comment je vais exprimer mon idée? C'est pas le franchise player qui prend les choses en main au moment où ça brûle et qui termine le match.
Tu sais ce qu'il fait, Victor? Victor, il met tout le monde sur les bons rails. C'est lui qui commence les matchs. Quand il est agressif, quand il est dur, quand il est solide, tout le monde le suit après. Et c'est l'avantage ou l'inconvénient de cette équipe des Spurs, c'est qu'il y a plein de joueurs capables de scorer.
Il n'y a pas forcément besoin.
Mais c'est surtout que comme il l'a amener tout le monde avec lui sur les premières minutes, et ben à la fin, les autres peuvent trouver des solutions.
Tu veux dire, mais tu vois, par rapport au débat avec Brunson, en fait, c'est dur parce que Brunson, lui, encore une fois, là où Victor, il a vraiment dû galérer, ça redonne un peu de relief encore à ses performances de le faire dans l'adversité comme ça. Brunson, avec les Knicks, ils se sont tellement baladés que c'est dur de pouvoir le juger. Mais après, il faut quand même se rendre compte qu'on est sur un garçon qui était sur la série contre en finale de conf, là, il est quasiment à 30 points de moyenne. Donc lui, c'est pareil, en fait. Si ça a été aussi simple pour les Knicks, c'est parce que Brunson a été absolument monstrueux. Le match 1, qui était le seul que Cleveland a failli prendre et que ça aurait pu faire basculer la série.
Il a mis 38.
Brunson, il met 38 points. Dernier quart temps, je crois, il met 16 points, dont 11 de suite. Il est absolument monstrueux. Donc lui, dans ses moments clutch, il l'a été. Après, forcément, il a moins eu besoin de tirer sur la corde parce que il y avait beaucoup plus de marge que Victor avec les Spurs. Mais donc voilà, c'est pour ça que c'est très dur de pouvoir les comparer. Après, je rejoins aussi sur Fred sur le leadership de Victor. C'est en plus pour avoir eu la chance d'avoir vu tous les matchs et de près de voir toutes les attitudes, même pendant les échauffements, dans les après-matchs, etc.
C'est pour ça qu'il regardait les cheerleaders,
Victor, ouais. Regardez avec ses coéquipiers. Non, par contre,
Qu'il voyait derrière les cheerleaders.
Il a vraiment une capacité à fédérer et à mettre tout le monde sur ses épaules qui est complètement dingue. En plus, à 22 ans et pour ses premiers playoffs, quand tu regardes cette équipe-là, tous les coéquipiers de Victor, t'as l'impression qu'ils pourraient se prendre une balle pour Victor. Et qui pourrait même foncer droit dans le mur à 150 km/h pour Victor Wembanyama. Il a vraiment ce côté-là de réussir à fédérer. Et ouais, encore une fois, Fred, quoi, c'est vrai que quand tu dis sur les débuts de match, quand Victor il met 4, 6, 8 points dès le début de match, qui est ultra agressif, tout le monde va dans son sillage et les Spurs sont très durs à arrêter. Quoi.
Steve.
Moi, si tu me demandes qui tu veux dans ton équipe, je prends Victor, en fait. Parce que Victor Wembanyama est capable d'impacter le jeu sans ballon, ce que ne peut pas faire Jalen Brunson. Jalen Brunson, il a besoin du ballon en main pour être un joueur dangereux. Victor est capable de faire gagner un match en prenant 13 ou 14 tirs. Jalen Brunson ne peut pas être impactant s'il prend que 13. Jalen Brunson, il a besoin de prendre à minima 20 tirs dans une rencontre. Et de l'autre côté, Jalen Brunson, et là on n'en a pas parlé dans la match-up, mais Jalen Brunson, il va être ciblé parce que défensivement, c'est pas non plus. Il va jouer entre 42 et 46 minutes par match, Jalen Brunson, avec beaucoup de possessions à jouer. Il se cache de l'autre côté, papy, parce qu'il sait que jouer 45 minutes en se mettant des pelées défensives et après en étant lucide pour attaquer, il n'est pas capable de le faire. Victor n'a pas de... Peut-être que Victor a pas peut pas monter aussi haut régulièrement offensivement, parce que si le jeu des Spurs n'est pas fait comme ça, le jeu des Knicks, il est quand même orienté autour de Jalen Brunson, même si ça a un petit peu changé en playoff. Jalen Brunson, quand il fait un main à main, les mecs, ils regardent pas le panier, ils regardent où est Jalen Brunson pour lui rendre le ballon. Victor Wembanyama, il est un peu plus dilué offensivement, mais Victor Wembanyama a plus d'impact dans la globalité sur un match des deux côtés du terrain que peut avoir Jalen Brunson. Sauf que Jalen Brunson, offensivement, il a tellement de munitions à jouer qu'il peut éventuellement te faire gagner un match uniquement par l'attaque, parce qu'il prend 25 ou 30 tirs. Maintenant, sur l'entièreté des playoffs, moi, je suis désolé. Je trouve que s'il y a un garçon qui est capable de gagner une finale NBA, je ne vais pas dire à lui tout seul, mais c'est Victor, en fait. Je ne suis pas sûr que Jalen Brunson, Victor Wembanyama, peut, par rapport à tout ce qu'il fait sur un terrain, emmener les Spurs au titre NBA. Jalen Brunson, c'est un peu, c'est réducteur ce que je veux dire, mais c'est Pippo Inzaghi, en fait. C'est un numéro 9 au football.
Qui est là pour mais je trouve un peu dur, parce que je pense que
ouais,
chacun,
mais j'ai envie dur, en fait.
Chacun est dans son contexte.
Oui, bien
c'est-à-dire,
sûr.
Mais c'est-à-dire
on
que
lui Brunson, a donné ça.
Donc on lui a donné ça et on lui en compense
et
défensivement.
Et il le fait bien aussi.
Et il le fait extrêmement bien. Il amène une équipe quand même. Finalement, c'est quand même lui qui amène tout le monde.
Bah, c'est
parce que c'est lui qui trouve les solutions. Même quand il ne marque pas, il est capable de trouver les autres, il crée des cases.
Et puis, il a 4 matchs gagnés d'être une légende d'Enix.
Hein, ouais. Exactement. Donc je pense que c'est contextuel aussi. Je pense que Victor, je te rejoins par rapport à l'impact qu'il a dans cette équipe. Mais tu changes les joueurs. Bah, je sais pas ce qui se passe en fait.
Je pense pas que les Spurs soient en finale NBA si c'est Brunson à la place de Victor.
Bah, je sais pas.
Bah, l'équipe serait pas construite pareil. Donc
je sais pas. L'équipe serait construite différemment. Donc je sais pas.
Et est-ce que Carl Anthony Towns est dans cette discussion?
Non.
Bah, merci.
Pas assez impactant.
Non, en fait, il est intéressant. Moi, je trouve que son changement de rôle, c'est l'impact qu'il peut donner sur le jeu, la capacité qu'il a de faire des passes maintenant, d'être vraiment impliqué à chaque fois dans le jeu, c'est hyper intéressant. Mais il est pas à ce niveau-là quand même.
Moi, j'ai un problème avec Carl Anthony Towns. Alors, on connaît le talent du mec. En plus, son jeu a vachement évolué quand il est arrivé de la fac. C'était un mec du post-up avec du truc. Après, il s'est écarté pour jouer avec la NBA aujourd'hui. Moi, j'ai un problème avec Carl Anthony Towns, c'est que parfois, il disparaît. Ça, il a un peu cette nonchalance où il fait plus les efforts défensifs, où il a un peu la tête basse, il est plus impliqué dans le truc et c'est gênant. Et j'ose espérer qu'il va pas y avoir de passage comme ça de Towns. Si on regarde sur la saison, des fois Carl Anthony Towns, il disparaît des matchs. Il est capable de faire des matchs où il prend 8 tirs, il est là, bon, il est sur le terrain et il disparaît. Il dit bah vas-y, Jalen joue. Et
on l'a pas vu sur les playoffs par contre.
Non,
sur les playoffs, il a pas eu aucun moment comme
ça. Non, mais parce que
attends, tout tournait tellement bien aussi pour.
Oui, exactement. Fiat parfois, s'il met pas les doigts dans la prise, c'est un chat tout mou, hein, c'est un chat de gouttière.
Alors, juste pour finir sur ce débat, pour revenir sur les deux principaux, donc Victor et Brunson, mais il y a un truc pour défendre un peu Brunson qui me fascine et que j'adore, c'est que je trouve que c'est comme s'il n'a pas encore trouvé sa limite. C'est-à-dire que je le trouve en fait de plus en plus fascinant. Je trouve que des fois, quand il décide que ça y est, maintenant, on va marquer des points, le mec, il prend le ballon et personne ne peut l'arrêter. Et ça y est. Et il va driver, il marque des points. Parfois, je trouve, hyper facilement.
Parfois, on a l'impression qu'il décide
Et surtout, je trouve un joueur qui, de saison en saison, est toujours en progression et qui n'a peut-être pas encore trouvé sa limite. Alors, il va peut-être la trouver en finale contre les Spurs. Et là, j'espère, on verra, parce qu'on est tous plus ou moins supporters quand même de Victor et des Spurs. Mais c'est ça que je trouve hyper intéressant dans cette finale, c'est qu'elle est indécise par la progression. Il a un côté magique, en fait, je trouve, parfois. Parfois, tu te dis, bon, bah, ok, le match, il est compliqué et tout, bah, donne le ballon à Jalen Brunson, c'est réglé.
Mais moi, je veux voir s'il va être capable de le faire en finale NBA, s'il va être capable de le faire quand il va battre Stephen Castle, et déjà, c'est compliqué, et voir Victor qui arrive, parce que Cleveland bat James Harden ou bat Donovan Mitchell sur du 1 contre 1, c'est pas le truc le plus compliqué du monde non plus.
Alors,
après, il faut mettre les paniers après.
Atkinson m'a dit que James Harden était le meilleur défenseur de Cleveland.
Et quand tu bats ces garçons-là, Evan Mobley, Jarrett Allen, c'est pas Victor Wembanyama. Donc il a des qualités offensives exceptionnelles. Il l'a fait à Dallas quand il avec Luka Doncic, il était énorme. Après, il est parti à New York, il a assumé son statut de scoreur. Là, il va affronter. Les Knicks sont très forts défensivement sur ces playoffs, mais la deuxième meilleure équipe défensive des playoffs, c'est les Spurs.
C'est les deux meilleures défenses
dans un contexte différent.
Donc, qui me montre Jalen Brunson que toutes ses qualités fantastiques de scoring, il va être capable.
Je suis quand même super content pour Brunson, parce que tout le monde le critiquait, trop petit, pas assez bon pour amener une équipe en finale,
trop d'argent,
etc. Et le mec, il ferme des bouches sans lui trop l'ouvrir. Je trouve ça hyper
intéressant. Et puis c'est un bon mec.
Un petit élément de contexte, un petit bémol dans le duel Brunson-Victor, parce qu'on a quand même beaucoup saucé Victor Wembanyama dans le duel entre les deux. Il y a un truc qui est important, si on veut vraiment les comparer, c'est quand même que Victor a manqué 3 matchs sur ses playoffs, mine de rien, alors que Brunson n'en a manqué aucun.
Ah oui, il joue joue tout le
temps. Victor, il en manque 3. Enfin, il y a le match où il se fait sa commotion cérébrale.
D'accord,
sort
mais au final, il y a le match ils en ont joué derrière, plus, quand même.
Le coup de coude où il sort.
Voilà. Et il y a le match du coup qui avait manqué après la commotion cérébrale. Donc, en fait, quand on fait l'évaluation globale des playoffs et que si vraiment on veut comparer le meilleur joueur entre les deux, on est obligé de prendre ça en compte le fait que bah, Victor, elle a manqué 3 matchs. Quoi.
Allez, on passe à la partie.
Ouais, que Brunson en a joué moins aussi.
Ouais, au final, Victor, elle a joué plus de matchs quand même malgré tout.
En pourcentage de ton équipe, tu vois.
Ah ouais, fait.
Vous là, vous êtes en train de faire des maths. Hein. Faites
oui,
gaffe.
C'est vrai.
Allez, on passe à l'histoire.
Ah oui, l'histoire.
The San Antonio Spurs, the New York Knicks, we are ready for the NBA Finals.
The San Antonio Spurs are heading home after tonight's game. The question is, do the Knicks go with them?
Here comes Avery Johnson. A title's at stake. Drills it from the baseline, and the Spurs have regained the lead. Fires at the buzzer. No, the San Antonio Spurs win their first NBA championship.
Alors, vous allez me raconter la finale 99 entre les Spurs et les Knicks. T'as eu le temps de bosser, Steve ?
Ouais, j'ai fait un petit truc qui va combler.
Steve, il était bloqué dans les embouteillages ou la pluie.
J'ai mis 1h15 pour arriver chez moi.
Il y a un petit problème de planning.
Ouais.
Surtout que cette finale, je le disais tout à l'heure, mais c'est la réalité. Pour moi, elle est totalement obscure. Je n'en ai aucun souvenir. Donc, vous allez me rafraîchir la mémoire. Félix.
Moi, je vais te parler du shoot d'Avery Johnson lors du match 5 de ces finales. Parce que quand on parle des Spurs champions de cette année-là, c'est pas le nom qui vient en premier, Avery Johnson. On pense d'abord à Tim Duncan, à David Robinson, à Mario Ely même. Fred va nous en parler.
Je voulais en parler. En fait, j'ai confondu le Mario Ely de Houston.
Houston, ah ouais. Oui, ok.
Et en fait, de mémoire, je me disais mais Mario Ely. Et en fait, je me disais, mais pourquoi il prend Avery Johnson? Il est complètement con. Et en fait, non, c'est lui qui avait raison. Voilà.
Et non, mais du coup, il y avait aussi le shoot de Sean Elliott en demi de conf qui était assez miraculeux, mais on parle rarement d'Avery Johnson, qui pourtant, c'est lui qui a cloué le cercueil d'Enix lors de ses finales 99. Donc avant de vous raconter ce fameux shoot, je vais vite fait.
Attends. Et du coup, si tu finis par le match 5, on va peut-être commencer par quelqu'un d'autre.
Pourquoi ?
Je t'interromps. Bah parce que tu vas nous raconter la fin.
Ah oui. Ah, je sais pas, c'est toi qui m'as lancé en premier.
Non, mais oui, parce que souvent je fais ça un peu au hasard, mais là, il y a une certaine cohérence à respecter.
Bravo, Pierre.
Je pense que je vais t'interrompre maintenant avant qu'il soit trop tard. On va démarrer par Stephen qui a fait le minimum. Donc, allez, le mauvais élève au tableau, tu vas nous présenter cette finale.
Bon, déjà, on fait un concours de mauvais élèves.
Alors, déjà, il faut se rappeler que c'était une saison à 50 matchs de saison régulière parce qu'il y avait le lockout. Donc, il n'y avait que 50 matchs de jouer. Et sur la saison régulière, ni les Knicks ni les Spurs se sont affrontés. Donc, c'était la première fois qu'ils se jouaient sur cette finale NBA. Et moi, je vais parler d'un joueur qui est un peu passé inaperçu sur cette finale-là, mais finalement, qui a un palmarès XXL. C'est que dans cette équipe des Spurs, il y a un garçon qui arrive du three-peat des Bulls, qui est Steve Kerr. Steve Kerr, il vient de gagner trois titres consécutifs avec les Bulls. Il fait partie du démantèlement de Jerry Rose qui finalement plus personne ne re-signe, donc lui il arrive aux Spurs et il gagne directement avec un petit rôle de 8 minutes derrière justement Avery Johnson dont nous parlera Félix, mais ça lui permet de prendre une quatrième bague et de faire un quadruplé, ce qui est quand même exceptionnel pour Steve Kerr. Il reprendra une bague en 2003, notre ami Steve Kerr, donc ça fera 5 bagues, c'est-à-dire plus que les Brand James,
la
Manita, plus que les Brand James, plus que Shaq, il a plus de bagues que ces garçons-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'il arrive aux Spurs en 99, et il retrouve un mec qui avait lui aussi fait un three-peat avec les Bulls, mais qui était Will Perdue, qui avait fait le three-peat en 91, 92, 93. Donc il se retrouve, donc il y a deux joueurs des Bulls qui ont fait les deux three-peats différents, qui se retrouvent dans la même équipe des Spurs, et qui vont continuer à gagner. Et juste pour parler de Steve Kerr, c'est un garçon qui va prendre 5 bagues, et de 94, entre 94 et 2007, il y a 14 titres de champion NBA. Durant ces 14 saisons, il y a deux joueurs qui vont s'en partager 12 sur 14, Steve Kerr et Robert Horry.
Bah oui, Robert
Horry, il est champion en 94 et 95 avec les Rockets. Steve Kerr, 96, 97, 98, 99. Ensuite, Horry, 2000, 2001, 2002. Ensuite, 2003, Kerr, 2005 et 2007. Robert Horry. Les deux garçons qui ont gagné la plupart de leurs titres, coachés par Phil Jackson, Steve Kerr aux Bulls, Phil Jackson, Lakers pour Robert Horry. Et deux garçons qui ont gagné les autres bagues dans une équipe du Texas, Houston et San Antonio.
Bravo.
Voilà, Pierre.
Merci.
Finalement, pour un mec qui n'a pas travaillé, j'ai 11 sur 20 quand même.
Franchement,
t'as des bonnes stats. Fred.
Mais justement, moi, j'avais envie de parler de stats. On est en train de parler de l'attaque de feu de New York. Et donc, je me suis penché sur le scoring un peu qu'il y avait pu avoir sur ces finales.
C'était Bojan Malkovich,
comme tu l'as expliqué, c'est vrai qu'il n'y a eu que 50 matchs dans cette saison et que c'était une saison un peu particulière. Mais c'est vrai que ça a joué très, très dur dans cette série quand même. Donc, juste pour relativiser un petit peu les scores et rappeler un petit peu ce qu'il en était. Sur le premier match, les Knicks perdent 77-89. Ouais. Ils sont à 29 sur 78 au shoot et un magnifique 3 sur 13 à 3 points. Ah ouais. Magnifique.
C'est le stade d'un mec maintenant.
Voilà, c'est ça. Exactement. Donc vraiment, on a du mal à se rendre compte qu'à un moment, les gens ne jouaient pas 4 ouais. points. Ça a énormément changé. Et là, je vous parlais du match 2 qui est encore plus fantastique, là, à mon goût. Alors, sur ce match, les Knicks ont marqué 67 points. 67 points. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible. En fait, il y a deux joueurs qui marquent en plus, Sprewell et Houston. Sprewell 21, Houston 18. Ah oui. Imaginez le reste. Il y a quatre joueurs à 5 points. Et 67 points à 24 sur 70 au tir et 4 sur 12 à 3 points. 4 paniers à 3 points marqués pour New York sur ce match 2. Je ne vais pas vous faire tous les matchs, mais je vais revenir sur le match 5 quand même, où Tim Duncan, lui, mettra 31 points, 9 rebonds, David Robinson, 15 points, 10 rebonds, Avril Johnson sera à 13 points, pardon, 10 passes, mais on sera sur un 78-77.
Ah ouais.
Match catastrophique.
Un autre basket, hein.
À 28 sur 72.
C'est un Nancy Cholet, quoi.
Et 28 sur 72 au tir, et un 2 sur 7 à 3 points. Vous savez combien de passes il y a dans ce match ?
Décisif ?
Assist. 12. 13. 13 passes décisives dans le match
pour
les Knicks. Pour les Knicks, 13 passes. C'était incroyable. Et c'est vrai que quand on voit maintenant les scores, quand on voit New York cette année, c'est vrai que ça pique un petit peu les yeux.
Allez, donc à la fin.
Et moi, pour un mec qui n'avait pas beaucoup bossé, ça va aussi.
Ouais, très bien, mais sauf que toi, t'étais pas dans les embouteillages.
Moi, j'étais dans le train, moi.
Attends.
Dans le train, y a pas de réseau. Limoges Paris.
Le problème, c'est Limoges, en fait. Y a pas de Wi-Fi à Limoges.
Le train Limoges Paris, il y a deux problèmes, le réseau et l'odeur.
Eh ben, écoute, j'ai vécu les deux.
Mais est-ce que c'est l'odeur de Fred ?
Non,
mais ça peut pas toujours être moi.
C'est l'odeur du train, oui.
Alors, à la fin, c'est les Spurs qui gagnent. Félix.
Bah, justement. Donc, je vais vous parler de ce fameux shoot après ce gros teasing. Avant de vous raconter ce shoot, je reviens vite fait sur le CV d'Avery Johnson, car ça permet de comprendre à quel point c'est un garçon qui a toujours été sous-estimé, et c'est un point assez important dans cette histoire. Déjà, Avery Johnson débarque en NBA en 88 en n'étant pas drafté, car à la sortie de la fac, on estimait qu'il était trop petit et pas assez scoreur. Donc en début de carrière, il bourlingue pas mal entre Seattle, Denver, Golden State et San Antonio, où il se fixe à partir de 94 après deux premiers passages éphémères chez les Spurs. À San Antonio, Popovich, il en fait son titulaire à la main et un peu son gars sûr pour être son relais sur le terrain. Son surnom Avery Johnson, c'est The Little General. Ça vous permet de comprendre un peu à quel point il était important dans son rôle d'organisateur.
Tu pourrais t'appeler comme ça.
C'est vrai, le petit général.
Le petit général, ouais, clairement.
Mais par contre,
au moins le petit.
Mais là, en fait, là où le parallèle marche pas, c'est que moi j'étais plutôt scoreur quand j'étais petit, alors que quand j'étais en jeune, alors que lui c'était absolument pas un scoreur. Stephen, il me regarde comme s'il avait vu mes matchs en Benjamin ou en
poussin. Il m'a dit,
quoi.
Putain, scoreur.
Ouais, c'est ça.
Tu sais qu'en mini poussin et en poussin, j'étais une petite gâchette. Hein.
Ah, mais t'es à 25 points de moyenne en mini poussin.
Mais du coup, Avery Johnson, lui, c'était pas du tout un scoreur et c'est justement ce qui lui valait d'être beaucoup critiqué. En carrière, il tourne à un peu plus de 8 points de moyenne et ça n'a jamais été une menace longue distance. Pour vous faire une idée, il était à 14% à 3 points sur l'ensemble de sa carrière. Alors, il en prenait quasiment pas, mais c'était quand même pas très joli quand il était de loin. Du coup, c'est toujours lui que les défenses laissaient ouvert en attaque pour mieux limiter les autres joueurs des Spurs. Et c'est là qu'on arrive au fameux match 5 des finales face aux Knicks. Les Spurs mènent 3-1 et ils ont l'opportunité de terminer la série au Madison Square Garden. Ce match 5, Fred t'en a bien parlé, c'est une guerre de tranchées. Les Knicks mènent d'un petit point, 77-76, au moment d'entrer dans la dernière minute du match. La possession est pour les Spurs, qui sont donc derrière au score, et il se passe ça.
Can New York hold them off? Sean Elliott, Avery Johnson. For Avery Johnson, the Spurs by one.
Avery Johnson est laissé complètement seul ligne de fond, sauf que là, il nous envoie un jumper à 5-6 mètres qui fait filoche. La clim est terrible dans le Madison Square Garden. Les Spurs repassent devant, 78-77. Derrière, il reste 47 secondes à jouer, mais le Knicks n'arrive pas à scorer et on en termine là. Victoire d'un point des Spurs qui remporte la série et le premier titre de leur histoire. Tout ça donc grâce à un dernier shoot d'un joueur qui a toujours été sous-estimé, que les observateurs voyaient comme le point faible du 5 majeur des Spurs. C'était les vrais débats qu'il y avait à l'époque. Beaucoup pensaient que Santonio pouvait pas être champion à cause de lui et qu'il était ciblé pour sa faiblesse au shoot. Tout le monde le laissait shooter. Et bien ce soir-là, sauf qu'il l'a mis son shoot et ça a changé l'histoire des Spurs.
Et juste une question en dehors de ce shoot d'Avery Johnson, qui est le joueur le plus important ? C'est Tim Duncan ou David
Robinson ? Tim Duncan.
Qui est en NBA depuis 2 ans. Hein. À ce moment-là.
David Robinson, il commence
à 22 ans.
Sur le match 1, par exemple, il fait 33 points, 16 rebonds, juste pour situer un petit peu.
Tu dis quoi sur David Robinson ?
Bah, il commence un peu à décliner en 99, l'amiral. Mais ce qui est marrant, c'est que dans cet effectif des Spurs, au final, tu auras deux garçons qui deviendront coach de l'année en NBA sur un banc. Avery Johnson, coach de l'année en 2006, je crois, avec les Mavs, et Steve Kerr. Bon, on va pas rappeler son palmarès de coach.
Il y avait un peu de cul basket dans ce roster.
Très bien, alors c'est parti pour le quiz. demander à Fred qui est en train de me menacer avec son gros point. Fred, me fais pas répéter. Ok, la question.
Par contre, tu me menaces jamais.
Denis Schroeder.
Schroeder. C'est très très simple.
C'est très très simple.
Alors, si tu n'as pas dit ce nom, c'est que non seulement tu connais rien en basket, mais en plus, je vais te péter la gueule à la sortie. Magic Johnson.
Le seul qui a le point, c'est Fred Vell.
Ah, mais c'est pas menacé.
Voilà. Voilà pourquoi je me plagierai ce soir.
Merci beaucoup, Pierre.
Merci, Pierre.
Bravo à tous. Belle fin. Tout était parfait. Belle.
Alors, le quiz m'a l'air très très long, donc si vous en avez
marre. Il y a Mesmer.
Ouais, une Mesmer, elle est grave. Elle est très importante. la Mesmer, je la zappe pas. Hein. Je vous dis tout de suite, la Mesmer, elle est très importante.
Okay, bah vas-y, bah, démarre là.
Non, si vous en avez marre, vous pouvez me dire en abrège. Hein.
Pourquoi ? Mais vas-y, commence déjà, ça dépend.
On va juger la qualité déjà.
On commence par un blind test 99, donc c'est que des morceaux de 99. On démarre par la France, c'est-à-dire les morceaux les plus écoutés en France. Wow. Premier extrait.
Allez, c'est-y.
Ah non,
l'Arto.
Excellent. Quelle merde.
Tu m'oublieras.
Il a tellement d'entrées sur ça.
Mais évidemment.
Ah ouais, la Rousseau.
Ah ouais, l'intro, elle est dingue.
Bah, elle exagère pas non plus, quand même.
Non, elle est dingue, elle est naze.
Oui, oui.
elle exagère pas non plus. Moi, j'aime bien la Rousseau.
Bon, la Rousseau, c'est parti. Deuxième extrait.
Attention, c'est Winter.
Ça, c'était dingue.
Do you believe in love?
C'est cher.
Ah ouais, c'est cher.
Mais c'est ça, même. Mais pour, franchement, pour la performance vocale, j'ai envie de donner un point quand même à Steve.
Non.
2 points pour Fred. Ah, il était incroyable ce morceau.
Même pas,
cher.
Même
c'est le retour de Cher.
Même pas dans les soldes, elle était chère.
Elle était très chère.
Après une traversée du désert, elle était ressortie avec ce truc.
Ouais, ouais.
Allez, troisième extrait, attention.
C'est
David Hallyday.
David Hallyday. Oh, wow. Ça, je pense que c'est la plus grosse bouse de l'histoire de la musique.
Ça me dit rien du tout. Hein.
Ah ouais, ouais.
Bon, c'est pas une grosse perte. Hein, non, c'est vrai. Mais...
Comment ça, t'as dit quoi?
Je dis rien.
Comment t'es passé à côté de ce
ouais,
truc?
Je crois que je suis passé à côté, ouais. Désolé.
L'importance que les gens prennent tant qu'il est encore temps.
Je préfère la Rousseau.
Ah ouais, les paroles.
Je vous conseille, les paroles, elles sont dingues.
C'est pas son père qui l'a dit, qui a écrit quand même.
Non, mais c'est une chanson adressée à son père, je crois.
Ah oui.
Alors ensuite, on passe aux États-Unis. Premier extrait.
Brilliant Spears, ouais. Ah,
voilà, c'est un peu mieux quand même. Alors, on passe à un autre level là. Ouais. Ah, Félix, il est pas convaincu par Britney. T'aimes
si,
pas Britney?
Ça va, si, non, si, ça va. Je vois.
Ah, c'est qui va connaître?
Mais même David Hallyday, moi, je vois
l'école et tout ça. Là.
Britney, c'était dingue.
Je la connaissais par cœur à l'époque.
Mais oui, t'aimes Britney, toi, rassure-moi.
Bien sûr, j'aime Britney. Britney.
Hein?
Je suis un womanizer, moi.
Très bien. T'es un womanizer, il est prétentieux, garçon. Allez, deuxième extrait.
Ricky Martin.
Félix, bravo Félix. Et dernier extrait, le morceau très connu, le groupe un peu moins.
Chelsea.
Bravo.
Mais le groupe, il est super connu.
Ouais.
Quand même.
Ah, bah si. C'est pas du niveau de Ricky Martin ou Britney.
Il y a pas une meuf qui s'appelle Lefty dedans ou je sais pas quoi.
Peut-être.
Ça, c'est ta cam, ça.
Évidemment.
Ok.
Non.
C'est la cam de tout le monde, ça.
Ouais.
Juste pour me faire plaisir, c'est pas du blind test, c'est ouais. Pas dans le blind test, mais ouais. Alors, 99, il y a un de mes morceaux préférés ever de l'histoire de la musique, donc on va mettre 2-3 notes quand même.
Casey et Jojo, non?
Non, Naughty by Nature.
Naughty by Nature, oui.
Il est incroyable ce morceau. Écoute le Fred.
Je connais Naughty by Nature, je connais.
J'ai l'impression que tu l'as pas en tête le morceau.
Ben là, je ne retrouve pas, forcément.
Allez, on passe à la culture générale. Alors, les questions.
Je vais être moins bon là.
Chacun à votre tour, pas forcément. Question San Antonio, New York, les deux ou aucun des deux. Steve, oui. La ville la plus visitée de son état.
La ville la plus visitée de son état. Donc l'état de New York et l'état du Texas. Au Texas, je pense qu'il y a d'autres villes plus visitées que les Spurs, donc je vais dire New York.
Eh bien les deux. Ah ouais. San Antonio est la ville la plus visitée du Texas. Bah, c'est ça l'info.
J'aurais dit ouais. Comme toi.
Pourquoi ils visitent San Antonio, les gens?
La Riverwalk.
Mais c'est la seule ville où il y a un peu de patrimoine. Ah ouais. En fait, ça a l'air
il y a
triste.
Fort Alamo.
C'est
Fort Alamo qui a un
Texas,
monument d'histoire là-bas.
Il y a un peu d'architecture apparemment
hispanique. Je sais que Dallas ou une ville comme ça était moins visitée.
Voilà. Dallas, c'est le pétrole, c'est J.R. Ewing et ouais. Terminé.
Je pensais que les gens venaient pour la série.
Non, c'est les deux donc.
C'est les deux la réponse. Félix, Shaquille O'Neal est allé au lycée dans cette ville-là. Et déjà, est-ce qu'il est allé au lycée, Shaquille O'Neal?
Il a 4 doctorats, je crois.
Ah oui
ouais.
Il est diplômé de ouf.
Ouais.
Ah, je ne sais pas.
Bravo. Il n'est pas allé au lycée à Saint-Antonio, je ne crois pas. Mais est-ce qu'il est allé au lycée à New York? Ah, je vais dire aucun des deux.
Ah, la réponse est San Antonio.
Ah ouais.
Fred, j'abrite le Hall of Fame Museum du baseball.
la logique voudrait que ce soit New York. Mais je suis sûr que comme tu n'es pas logique... New York.
Ah oui, c'est New York, absolument. Steve, je suis la ville où a été créé le cookie en 1893.
T'es pas sérieux?
Si, je suis très sérieux.
Créé par Lefebvre Utile.
Lefebvre Utile?
Lu.
Ah, le cookie?
Ouais.
San Antonio, j'en aurais entendu parler à l'époque de Tony Parker. Ils auraient fait des reportages, on aurait vu au moins un truc comme ça. Et New York, ça ne me parle pas, donc je vais dire aucun des deux.
Aucun des deux, mais c'était une question pour toi, parce que c'est Chicago.
Ah, c'est Chicago.
C'est un peu de Chicago, toi, le cookie. Oui. Ensuite, Félix, plus d'un habitant sur quatre est né à l'étranger.
Ah. Je vais dire les deux, c'est deux villes cosmopolites.
Eh ben, c'était ça le piège, il n'y a que New York, finalement. Et enfin, le hot dog a vu le jour chez moi, Fred.
New York.
Ah oui, quand même, merci. Hein.
Bah non, mais je pense, c'est en fait, ça paraît tellement évident que
t'as hésité.
Bah...
T'as
dit,
parce que comme Pierre est un salopard.
Exactement.
T'as déjà mangé un hot dog sur la 5ème avenue.
Franchement, c'est dégueulasse.
Bah, bien sûr.
Franchement, c'est dégueulasse.
Bah, moi, j'ai déjà mangé. Après, il fallait des toilettes pas trop loin. pas vous mentir que.
Non, mais
faut...
c'est du folklore, mais c'est
oui,
pas bon.
Oui, oui.
Mauvais pain, mauvaise saucisse.
C'est super cher. Ouais.
Mauvaise moutarde.
Les oignons grillés il y a 3 jours, ils te font réchauffer, ils te mettent dedans.
Allez, on passe au basket, sinon Fred va partir. 4 points pour Steve.
Non, là, c'était marrant pour une fois.
Ah, très bien. 4 points pour Fred, 1 point pour Félix. Qui est l'entraîneur des Knicks des deux titres de 70 et 73? C'est l'entraîneur qui a passé le plus de temps aux Knicks.
Bon,
soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. 68-82, il est resté. Il s'appelle Red Holzman.
Ouais, Red Holzman, ouais.
Ensuite, alors on va voir si vous connaissez bien votre Jalen Brunson. Nous allons... essayer de deviner la carrière de Jalen Brunson, un de ses coéquipiers à différents moments de sa carrière. Donc Brunson, il est MVP des championnats du monde U19 en 2015. Je vous fais deviner un de ses coéquipiers dans l'équipe des États-Unis 2015-U19. Alors, âgé aujourd'hui de 30 ans, il joue encore. Drafté par les Hawks en 41e position en 2017, il ne s'est jamais imposé en NBA et est donc parti chercher la gloire en Europe et il l'a trouvé. Avec deux titres de champion d'Israël, une Coupe de Grèce en 2022 et l'Euroleague cette année.
Kendrick Nunn ?
Non. Non. L'Euroleague cette année.
Tyler Dorsey.
Tyler Dorsey, absolument. Bravo, Steve. Ensuite, Jalen Brunson, il est champion universitaire 2016 et 2018. Un de ses coéquipiers, encore une fois. Un coéquipier qui est toujours son coéquipier. C'est Josh Hart qui a eu un concert de réponse.
Je crois que c'est parti en même temps.
Les deux en même temps.
Je crois que c'est parti en même temps.
C'est beaucoup plus vite chez moi.
Non.
Josh Hart, c'est un demi-point chacun. Et enfin, sa première franchise, les Mavs, ses coéquipiers aux Mavs.
Lucas.
Mais il est bon. Il est bon.
Bah, franchement, tu peux pas chercher d'autres mecs. J'ai un superstar qui joue avec lui.
Non, mais en fait, je voulais vous faire croire que c'était difficile.
Ah, okay.
C'était super facile. Ancien joueur du Real, vous auriez pu chercher un autre, je sais pas. Moi,
non.
Ah, bah, Dallas, ancien joueur du Real.
Jalen Brunson, ah oui, d'accord. C'est vrai qu'il y en a 20, il y en a 25.
Il va manquer un petit point, s'il vous plaît.
Ouais, un point de plus pour Fred.
Donc, on est... avec ce petit ton tout gentil.
On est toujours à égalité presque. À égalité. 5 points et demi pour Fred, 5 pour Steve, 1 point et demi pour Félix.
Milou, le point et demi, c'est quoi le demi-point?
Tu mets pas Josh Hart qui a dit 3 secondes après, mais peu importe.
Alors maintenant, devine un joueur de l'effectif actuel des Spurs, juste avec ses clubs dans l'ordre chronologique. Vous êtes prêts?
Oui. Joueur de l'effectif des Spurs.
Ok.
Harrison Barnes.
Non. Fuenlabrada. Écoutez, parce qu'après vous allez me faire répéter. Fuenlabrada. Charlotte Bobcats, puis Charlotte Hornets. Toronto Raptors. Orlando Magic. Charlotte Hornets de nouveau. Phoenix Suns. Memphis Grizzlies.
Bismack
Thunder. Et les Spurs, c'est Bismack et Biyombo. Alors, un joueur qui a marqué l'histoire des Knicks, dont on n'a pas parlé, puis on risque de jamais en parler, donc c'est Bernard King.
Ouais.
Okay. Alors, un petit quiz très rapide. Une question chacun. Bernard King, Burger King, les deux ou aucun des deux?
Cheap, ça.
Qui a inventé le double Whopper?
Steve, je suis né à New York.
Je suis né à New York. Je vais répondre les deux.
Alors, Burger King, c'est né en Floride. Et Bernard King est né à New York. Félix, je suis cité... Ah non, je vais la laisser pour Fred, celle-là.
Oh, je ne sens pas.
Je suis cité dans une chanson de Curtis Blow. Parce qu'il n'était pas né, il ne sait pas, il ne connaît pas.
Bah Fred, tu n'as pas l'impression qu'il connaisse non plus. Quoi.
Burger King.
Réponse en musique. Earl Pearl and Will Bingo and Jerry West play basketball at its very best. Basketball has always been my thing. I like Magic Bird and Bernard King. Donc la réponse c'était Bernard King.
Magic
Bird. Tu connais le morceau?
Oui, mais je connaissais pas le nom du mec, je connaissais pas.
Et enfin, Félix, on a retrouvé des traces de cocaïne en moi.
Oh.
Intox.
Allez, les deux.
Alors, c'est que Bernard King qui a eu des gros problèmes d'addiction, alcool, cocaïne.
On n'a jamais trouvé de coke dans un Burger King.
J'ai cherché. Ah. Alors, j'ai fait la recherche, donc je ne peux pas te l'assurer à 100%.
Peut-être sur un livreur de Burger King, peut-être.
Ensuite, qui a coaché les Spurs entre 88 et 92, puis les Knicks en 2005-2006 ? Bob Hill, non. Son nom a été cité tout à l'heure dans une réponse qui n'était pas la bonne.
Avery Johnson ?
Non.
Ah, c'est Steve, il a dit, je crois, non ?
C'est possible, oui. Je ne me souviens plus qu'il a dit.
88 et 92, les Spurs et les Knicks, 96.
T'as dit quoi, toi, Steve ? John Hill ?
Bob Hill.
Non, j'ai dit Bob Hill. Ah, oui.
Vous ne l'avez pas ?
Non.
Larry Brown.
Ah, c'est Fred qui l'avait cité, oui.
Ah, c'était Fred. Je vous fais juste le point sur les scores. C'est toujours 6 pour Steve, 5,5 pour Fred et 1,5 pour Félix. Greg Popovich est l'un des entraîneurs les plus titrés. Ok. Il n'y en a pas tant que ça qui sont multititrés. Vous allez me donner les deux entraîneurs en activité qui ont plus d'un titre.
Steve Kerr.
Steve Kerr, c'est bon. Et l'autre ?
En activité ?
Ouais.
Doc Rivers.
Ouais, mais il a arrêté. Il n'est plus en activité. Il a annoncé sa retraite.
Ouais, pas Doc Rivers.
Il y a Mike Brown, mais qu'il a eu en tant qu'assistant.
Non.
Ça compte pas.
Si vous vient à l'esprit, vous allez le trouver. Un mec connu, très connu.
Un coach multititré.
C'est un mec très connu.
C'est un mec très connu, bien sûr.
Qui a une histoire avec le basket.
Spoltra ?
Exactement.
Avec Spoltra, bien sûr. Oui. Oui.
Ensuite, on reste sur les entraîneurs. Quel est le point commun entre Pat Riley, Steve Kerr, Tyronn Lue et Nick Nurse ?
Ils ont joué ensemble ?
Non. Ils ont été champions de leur première année.
Excellent. Il revient, Félix. Attention, le comeback de Raymond Tada. Et enfin, pas tout à fait enfin, joueur des Spurs, joueur des Knicks, les deux ou aucun des deux ?
Dans leur carrière ?
Ouais. Mmh. J'ai joué aux Knicks, aux Spurs, aux deux ou aucun des deux. On démarre, Steve, avec Rick Barry.
Rick Barry ? Rick Barry. Alors, pas Brent Barry, parce que Brent Barry, il a joué aux Spurs avec Tipeee. Rick Barry. Rick Barry.
Je souhaite, ça m'en fait rien.
Rick Barry, je pense qu'il n'a pas joué aux Spurs. Rick Barry aux Knicks. Ça peut être une image, je vois, avec le Monique, j'ai envie de dire les Knicks.
Aucun des deux.
Ah ouais, putain, je savais.
Félix Jalen Rose.
Il a joué aux Knicks, c'est sûr. Papa de. Bah, il a joué aux deux. Ah non, il a joué à New York. Et celui qui a joué aux Spurs, c'est Malik Rose.
C'est pas son fils. Non.
Quelle est ta réponse ?
On comprend rien.
Attends, tu peux redire. Non,
je veux redire. Je dis
Malik Jalen Rose, ça n'a rien à voir.
Non, mais ça aurait pu être le piège.
Donc Jalen Rose. Où est-ce qu'il a joué Jalen Rose ? Aux Knicks, aux Spurs, les deux ou aucun des deux ? Ta réponse ?
Et j'ai dit père de Brunson, non ?
Non, t'as dit le père 2, je sais pas.
Je suis encore sur le décalage horaire, les gars, vous pouvez me pardonner. Je vais dire, j'en sais rien, je vais dire les Knicks.
C'est bon, c'est la bonne réponse.
Ah ouais, super.
Alors, Malik Rose maintenant pour Fred.
Les deux.
Les deux,
évidemment.
Ça, le piège.
Il m'a donné la réponse. En fait, il a donné 14 réponses. Évidemment qu'à un moment, tu vas avoir la réponse,
Steve.
Toi, et que moi aussi, je vais l'avoir.
David Lee. New York, c'est sûr, et je crois qu'il est passé le Spurs, donc c'est les deux.
Les deux. Félix Rod Strickland.
Les deux.
Les deux, c'est bon. Et enfin, Stephen Jackson pour Fred.
Les Knicks ?
Non,
les Spurs. Les Spurs.
Ah, oui.
La seule question, c'était est-ce qu'il a joué aux Knicks ou pas joué aux Knicks ? Et juste avant la question, Mesper, qui, je vous le rappelle, est très importante. Le club actuel d'un joueur français qui a joué à New York. Ok, je vous donne le club d'un joueur français, vous devinez le joueur.
Ok.
C'est un joueur français qui a joué à New York,
ouais.
Et qui n'est pas Evan Fournier.
Franck okay. Nikina.
Non. Chicago Bulls. Gershon Yabusele, Steve et Olympiakos.
Nikina.
Moi, je le donne à Fred, non ?
Pourquoi ?
Il n'a pas parlé.
C'est Jeff Panacloa.
Bon, je lui donne un demi-point.
C'est bon, Jean-Marc.
Un demi-point pour Steve et un demi-point pour Félix. Donc, les scores, ça fait 8,5 pour Steve. Ça fait 6 pour Félix, qui est bien revenu. Et ça fait 8,5 pour Fred également. Donc, il y a deux joueurs à égalité. Un joueur à 6.
Donc on arrête avec la question Mesmer.
C'est la question Mesmer.
C'est un deuxième podcast, le quiz, en fait.
Le nouveau spectacle de Mesmer avec RMC.
Je vais vous faire la question où vous devez être d'accord avec moi pour avoir le point.
Oh putain, il recommence.
Osez l'expérience où maîtrise de soi et fascination se rencontrent.
Tu peux me séparer ?
T'as trouvé ça où, toi ?
Mais qu'est-ce que tu me fais chier, toi ? Voici la question Mesmer.
Avec RMC.
Alors, comme c'est très long, et qu'il y a une égalité, on va finir sur la question Mesmer, elle va faire la différence. C'est une expérience incroyable. Parce que après, la question multi-point, elle est trop longue.
Ça me fait peur, Pierre.
Alors, la question Mesmer est très importante. Félix, selon la qualité de ta réponse, je peux t'accorder jusqu'à 3 points, mais vraiment, il faudra que tu sois très fort.
Il n'y a pas de règle.
Que doit accomplir Victor Wembanyama pour dépasser Jordan? Je vous ai dit qu'elle était importante. Hein. Vous ne pouvez pas la prendre par-dessus la jambe, celle-là. Moi, j'ai une idée relativement précise. Vous pouvez aussi m'influer. Mais j'ai une idée relativement précise. Il y a des points de passage obligés. Alors, je vois que vous êtes tous en réflexion. Je vois que Fred, il est prêt déjà à dire, vas-y, c'est vraiment de la merde.
Ça, c'est pas vraiment le visage de la réflexion, Fred. Donc, il avait le regard dans le vague.
Regardez le jeu.
Je pense qu'on va démarrer par Fred.
Ce qu'il doit, pour toi ?
Pour dépasser.
Ouais, pour moi, dépasser. Ouais. Ben, gagner beaucoup de titres, mais surtout de ne pas s'arrêter et arrêter le, et pas faire de baseball.
Ça peut compter, en effet, ouais.
Non, mais ce que je veux dire, avoir une constance, continuer à faire ce qu'il a fait et peut-être gagner 4 titres de suite.
4 titres de suite, c'est ta réponse. Eh, pas mal, 4 titres de suite. Steve.
Écoute, quand je vois qu'aujourd'hui, LeBron James, qui est peut-être le deuxième meilleur joueur de l'histoire, n'est pas au niveau de Jordan parce qu'on lui met dans la tête le nombre de bagues pas suffisant. Donc je pense que pour Victor Wembanyama, ça sera à minima 6 titres de champion NBA s'il veut au moins discuter avec Michael Jordan, les dépasser. Ensuite, il y aura 4 titres de MVP de la saison régulière à minima. Après, bon, quand t'es MVP, bon, il y a les All-Stars.
Il n'y en a pas 5, Jordan ?
5 peut-être, bon, 4, on se contentera de 4. des All-Stars, je pense qu'il faut qu'il batte le record de nombre de défenseurs de l'année aussi, que ça devienne le joueur avec le plus grand nombre de titres de défenseurs de l'année, donc ça va être 5.
Ouais.
Et puis, je pense qu'il faut qu'il soit champion olympique avec l'équipe de France de basket, parce que Jordan est champion olympique avec la Dream Team.
D'accord. À toi, Félix. Pour dépasser Jordan.
Et je termine. Qui reste toute sa carrière avec les Spurs de San Antonio et qui ne fasse pas une autre franchise.
Ok. À toi, Félix.
Parce que Jordan l'a fait pour le coup.
Oui, mais
ça a changé
pas,
pour le coup.
Pas.
Ouais. Pour dépasser Jordan, il doit déjà être champion dès cette année. Parce que s'il va gagner, ou alors l'année prochaine, mais ce n'est pas compatible avec ce que je vais dire après. Donc je vais dire dès cette année. Parce que Jordan, lui, a mis 7 ou 8 ans avant de gagner son premier titre NBA. Donc là, déjà, au bout de 3 ans, il le devancerait par rapport à ça. Et du coup, mon deuxième critère, il ne doit pas perdre de finale NBA. Parce que tu as parlé du débat avec LeBron. LeBron, il est toujours pénalisé parce qu'il a fait beaucoup de finales, il en a perdu. Alors qu'il y a un côté mystique chez Jordan qui a fait 6 finales.
Pourquoi je pense qu'on va se faire foutre,
qui a gagné les 6. Du coup, pas obligatoirement, il ne doit pas obligatoirement gagner 6. Il ne doit pas en gagner obligatoirement 6, Victor, mais s'il en gagne 4 ou 5, qui n'en perd aucune finale et qui gagne dès sa première année, là, au bout de 3 ans en NBA, il aura dépassé Jordan.
Continue, tu y es presque. Continue. Mets un coup d'accélérateur parce que là, je ne peux pas te le donner.
Et il doit rester toute sa carrière aussi aux Spurs. Il doit être champion olympique avec les bleus.
Je suis très embêté parce que Félix,
il fait gagner la France.
C'est le seul qui a vraiment trouvé le mindset dans lequel j'étais. C'est pour moi, premièrement, champion cette année, c'est obligatoire. C'est un point de passage obligatoire. Il peut pas la première finale la perdre et en plus, la gagner plus jeune. T'as raison. Ça sera un truc que n'aura pas Jordan. Et pour moi, il doit gagner cette année, enchaîner une série de plusieurs titres. 2-3 peut-être, et refaire une deuxième série. Je lui accorde même la possibilité de perdre peut-être une finale, ou alors avoir une année moins bien.
Tu viens de dire le contraire. Les finales, pour toi, il ne fallait pas en perdre. Je ne comprends plus rien.
Non. Attends,
non, il a dit qu'il ne fallait pas qu'il perde celle-là.
Et pourquoi pas la première?
Je lui accorde.
Ça n'a aucun sens, parce que Jordan n'était pas à son âge, n'était pas arrivé au niveau de la finale.
Eh ben, oui,
ça n'a aucun sens.
Donc ça serait un truc qu'il aurait accompli, que Jordan n'aurait
déjà
pas accompli.
Mieux que Jordan.
Oui, mais voilà, c'est ce que je dis.
Bah, sur un critère, mais pas sur l'ensemble des critères.
Mais donc, oui, mais il a déjà, même s'il perd, il a déjà fait mieux que Jordan, en fait.
Mais non, pas du tout.
Son année 3.
Oui, mais non, mais d'accord, mais tu vas et tu perds, bah tant pis pour toi, t'es pas champion, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Si il vient à 22 ans être champion, déjà, ça, Jordan ne l'a pas fait. On est d'accord là-dessus, quand même.
Oui, mais vu qu'il n'est pas allé en finale, déjà, évidemment qu'il n'est pas champion, par définition.
S'il n'est pas allé en finale, et ben il avait qu'à y aller, toi, quand même, c'est hallucinant ce que tu dis.
Continue.
Mais il est qu'à y aller, en fait, c'est toi qui. Mais il est complètement fou, ce mec, il avait qu'à y aller, Jordan.
Là, tu fais de la mauvaise foi.
Mais non, c'est toi qui fais de la mauvaise foi. Tu viens, tu es en train de me regarder, tu me dis, il avait qu'à aller en finale, Jordan. Ben il n'est pas allé, non.
Je m'en fous qu'il soit ou pas en finale, c'est gagner un titre à 22 ans. Ça, Jordan ne l'a pas fait, quand même.
Non, parce qu'il n'est même pas allé en finale.
Premier critère, ensuite.
Jordan n'a jamais été MVP de la finale de conférence S, ce n'existait pas.
Ensuite, il doit faire une série, et quand même, je pense, Félix, c'est là où je suis très embêté, il faut qu'il ait 7 titres.
Ah ouais?
Ah oui, pour moi, il sera pas. Non, mais attends, c'est le GOAT, mais... c'est Jojo, vous êtes fous.
Non,
hein,
mais imagine, il en fait 5 ou 6 avec tous les critères qu'on vient de dire. Donc, champion dès ses premières campagnes de play-off à 22 ans, qu'il en enchaîne plusieurs derrière, qu'il ne perd jamais de finale. Attends, s'il en gagne 5.
Alors, je t'accorde 2,5 points.
Ah, ça met tout le monde à égalité, ça.
Ça met tout le monde à égalité, 8,5, tout le monde. Donc, pour finir, le gagnant de ce quiz sera le premier, le plus rapide à me donner le nom de l'artiste qui a fait le dessin qui est sur mon t-shirt New York.
Banksy.
Non, c'est avant Banksy. Tu dois l'avoir, Fred, quand même, non? Tu connais pas? Putain, comment on va faire alors? On va arrêter le quiz sur un match nul. Hein.
Non.
Un graffeur?
C'est oui, plus ou moins, ouais. De New York.
Andy Warhol?
Non. Iconique de New York. Ces petits bonhommes avec des petits traits comme ça pour montrer qu'ils bougent.
Mais oui. Mais tu sais que j'ai un t-shirt comme ça en plus et ça me rend fou de pas trouver.
Oh, t'as un t-shirt Kissaring et tu le sais même pas, quoi.
Ah, c'est Kissaring.
Oui, bon, t'as mis un t-shirt et j'ai ça marqué dessus.
Et bah, vous avez quoi?
Merci.
Tout le monde a perdu. À la semaine prochaine.
RMC Basket Time.